Troisième partie. La forêt sombre. Chapitre 5. En 205 de la Grande Crise. Flotte trisolarienne à 2,10 années-lumière du système solaire. Les ténèbres apparurent. Avant les ténèbres, il n'y avait rien d'autre que le néant, et il n'y avait rien dans le néant, aucune couleur. L'émergence des ténèbres signifiait au moins l'éclosion d'un espace. Bientôt des perturbations naquirent dans cet espace sombre, pénétrant tout comme une brise légère. La sensation de l'écoulement du temps. Il n'y avait pas de temps dans le néant, mais le temps était maintenant comme un glacier en train de fondre. La lumière ne vint que longtemps plus tard. Ce ne fut d'abord qu'une tache lumineuse informe, mais après une attente extrêmement longue, la forme du monde se dessina. La conscience qui venait de renaître s'efforçait de lui donner du sens. Ce qu'elle vit au début, ce furent des tubes horizontaux fins et transparents, puis, derrière eux, un visage penché qui disparut rapidement pour laisser place à un plafond éclairé par un halo laiteux. Luoji se réveilla de son hibernation. Le visage réapparut. Il appartenait à un homme à l'expression douce qui regarda Luoji en disant « Bienvenue dans notre époque ». Et tandis qu'il parlait, sa blouse scintilla et offrit à voir un champ de roses resplendissantes qui s'estompa peu à peu et finit par disparaître. Durant la conversation qui suivit, la blouse du médecin afficha différents paysages délicieux d'océans, de crépuscules ou de forêts sous la pluie, s'accordant avec ses expressions ou ses humeurs. Il expliqua que la maladie de Luoji avait été soignée pendant son hibernation et qu'il n'aurait besoin d'une période de convalescence que de 3 jours environ avant de pouvoir retrouver l'intégralité de ses fonctions motrices. L'esprit de Luoji était encore dans un état léthargique. Des informations que venait de dispenser le médecin, il n'en avait retenu qu'une. C'était maintenant l'an 205 de la crise. Il avait hiberné pendant 185 ans. Il trouva d'abord l'accent du médecin étrange, mais il se fit vite la réflexion que les sonorités du chinois n'avaient guère changé. La seule différence, c'était l'entremêlement de beaucoup de mots issus de l'anglais. Pendant que le médecin parlait, le texte de ce qu'il était en train de dire s'affichait sur le plafond. C'était très certainement un système de reconnaissance vocale instantanée, destiné à se faire comprendre des patients venant de se réveiller. Tous les mots anglais étaient remplacés par des sinogrammes. Le médecin finit par indiquer à Luoji qu'il allait être transféré de la salle de réveil vers une chambre ordinaire. Au moment de lui dire au revoir, sa blouse projeta la scène d'un soir crépusculaire qui se changea rapidement en nuit étoilée. Au même moment, Luoji sentit bouger son lit. À peine eut-il franchi la porte qu'il entendit le médecin crier « Au suivant !» Il eut toutes les peines du monde à tourner la tête, mais parvint à voir qu'un deuxième lit était entré dans la salle de réveil, sur lequel était de toute évidence allongé un autre patient sorti d'hibernation. Ce lit se faufila rapidement entre un grand nombre d'appareils et la blouse du médecin redevint d'un blanc pur. Il tapota un coin du mur avec son doigt d'où il fit apparaître un écran. Le médecin fit défiler des courbes et des données complexes et les manipula promptement. Luoji réalisa à ce moment-là que son réveil ne semblait pas avoir été un événement majeur, mais seulement une partie du travail quotidien effectué ici. Le médecin s'était montré très courtois à son endroit, mais à ses yeux, Luoji n'était qu'un hiberné comme les autres. Comme dans la salle de réveil, il n'y avait aucune lampe dans les couloirs. La lumière provenait directement des murs. Malgré sa douceur, Luoji fut contraint de plisser les yeux. Mais au moment même où il fermait les yeux, les murs de cette partie du couloir s'assombrirent et cette légère obscurité suivit la trajectoire de son lit. Quand ses yeux se furent accoutumés à la lumière et qu'il put les rouvrir, la luminosité augmenta à nouveau mais resta dans un périmètre de confort acceptable. De toute évidence, le système de réglage de la luminosité du couloir s'adaptait à ses mouvements oculaires. À en juger par cette technologie, l'époque devait être très individualiste. Cela avait largement dépassé ses prévisions. Tandis que les murs défilaient lentement, Luoji vit s'activer de façon dispersée de nombreuses zones d'affichage de tailles différentes. Une bonne partie présentait des images qu'il avait à peine le temps de voir et qui avaient peut-être été laissées derrière eux par des utilisateurs ayant oublié de les éteindre. Le long du couloir, Luoji croisa à plusieurs reprises des gens en train de marcher et d'autres lits automatiques. Il remarqua qu'aussi bien les pieds des passants que les roues des lits faisaient naître des ondulations brillantes quand ils entraient en contact avec le sol, un peu comme à son époque quand on touchait un écran à cristaux liquides avec son doigt. Durant son trajet vers sa chambre, Luoji fut frappé par un sentiment intense de propreté. Il se serait cru dans un dessin animé en trois dimensions, mais il savait que tout cela était réel. Il se déplaçait au milieu de ce couloir empreint d'une sérénité et d'un état de bien-être qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Mais ce qui lui laissait l'impression la plus profonde, c'était que les personnes qu'il rencontrait sur son chemin, les médecins, les infirmiers et tous les autres individus, paraissaient soignées et élégantes. À son approche, il lui adressait un sourire aimable et certains agitaient même la main pour le saluer. Leurs vêtements affichaient des images ravissantes, d'un style différent pour chacun, tantôt réalistes, tantôt abstraites. Luoji était conquis par leur regard. Il savait que le regard des gens ordinaires était le meilleur reflet du niveau d'une civilisation dans un temps et un espace donné. Il avait jadis eu l'occasion d'observer une série de clichés réalisés par des photographes européens à la fin de la dynastie des Tsing. Et il avait été frappé par l'expression fruste des sujets photographiés. Sur ces images, dans les yeux tant des mandarins que des gens du peuple, ne se lisait rien d'autre que de la torpeur et de l'ineptie, sans le moindre soupçon de vitalité. Peut-être les gens de cette nouvelle ère éprouvaient-ils le même sentiment à l'égard de lui-même. Les yeux que rencontrait Luoji débordaient d'une sagesse vigoureuse, ainsi que d'une sincérité, d'une clairvoyance et d'une tendresse qu'il n'avait que rarement perçue à son époque. Mais ce qui ébranlait Luoji au plus profond de son âme, c'était la confiance qui transpirait dans ses pupilles, une confiance solaire qui imprégnait leurs yeux et qui, à n'en pas douter, était devenue la toile de fond spirituelle des individus de ce nouvel âge. Cela ne ressemblait en rien à une époque frappée par le désespoir, et c'était une nouvelle source d'étonnement pour Luoji. Son lit pénétra sans bruit dans sa chambre. Il vit qu'elle était déjà occupée par deux hibernés réveillés. L'un était allongé sur son lit, tandis que l'autre était à la porte en train de rassembler ses affaires avec l'aide d'une infirmière. Il semblait se préparer à partir. À leur regard, Luoji vit immédiatement qu'ils étaient des hommes de son époque. Leurs yeux paraissaient être des fenêtres du temps, à travers lesquelles Luoji reconnut en un clin d'œil l'époque grise où il était entré en hibernation. « Comment osent-ils ? Je suis leur arrière-grand-père tout de même !» Luoji entendit se plaindre le patient qui s'apprêtait à sortir. « Cet argument ne marche pas ici, c'est la loi. La période d'hibernation ne compte pas dans l'âge d'un individu. Ici, devant des personnes plus âgées, vous êtes toujours de la jeune génération. « Allons-y, ils vous attendent depuis déjà un moment, » dit l'infirmière. Luoji remarqua qu'elle s'était efforcée de n'utiliser aucun mot anglais, mais que, dans sa bouche, certaines expressions en chinois ne paraissaient pas très fluides. Elle donnait l'impression de parler contre son gré dans une langue ancienne. Quand elle n'avait d'autre choix que de s'exprimer en chinois moderne, les sous-titres correspondant en chinois ancien s'affichaient sur le mur. « Je ne comprends même pas ce qu'ils disent avec leur gazouillement bizarre !» s'emporta l'homme avant de sortir avec l'infirmière, chacun un sac dans la main. « Il faudra que vous appreniez à vivre à notre époque, ou bien vous n'aurez pas le choix. Il faudra aller habiter en haut !» Luoji entendit l'infirmière prononcer ces mots. Il pouvait déjà comprendre sans trop de difficulté la langue moderne, mais il n'était pas sûr d'avoir vraiment saisi le sens de cette dernière phrase. « Bonjour, vous avez été hiberné pour cause de maladie, c'est ça ?» demanda le patient du lit voisin. Il était très jeune, la vingtaine environ. Luoji ouvrit la bouche mais n'arriva à prononcer aucun son. Le jeune lui sourit en l'encourageant. « Vous pouvez parler, faites un effort !»« Bonjour !» finit par balbutier Luoji d'une voix rauque. Le jeune homme hocha la tête.
« Celui qui est parti était comme vous. Pas moi, je suis venu ici pour échapper à la réalité. Oh, je m'appelle Xiongwen. »
Ici, comment c'est ? » demanda Luoji en articulant avec beaucoup plus de facilité que quelques secondes plus tôt.
« Je ne sais pas encore trop, je me suis réveillé il y a seulement 5 jours, mais une chose est sûre, c'est une super époque. Pour nous, c'est un peu dur de s'intégrer. Le truc, c'est qu'on nous a réveillés trop tôt. Quelques années de plus et ça aurait été parfait. »
« Quelques années de plus, n'aurait-ce pas été encore plus dur ?»«
Non, nous sommes encore en état de guerre aujourd'hui. La société ne s'occupe pas de nous, mais dans quelques dizaines d'années, après la négociation de paix, ce sera une ère merveilleuse. »«
Une négociation ? Avec qui ?
Avec Trisolaris, bien sûr. »
Bouleversé par la dernière phrase de Xiongwen, Luoji essaya de toutes ses forces de se lever. Une infirmière entra et l'aida à s'asseoir sur le lit.
« Ont-ils dit qu'ils voulaient négocier ?» demanda nerveusement Luoji.
« Pas encore, mais ils n'auront bientôt pas d'autre choix !»
dit Xiongwen en se retournant avec une grande agilité sur le lit et en s'asseyant au bord de celui de Luoji. De toute évidence, il trépignait d'impatience de présenter cette époque aux nouveaux réveillés.
« Vous ne le savez pas encore, mais l'humanité est maintenant balèze, super balèze !»«
Comment ça ?»«
Notre flotte spatiale est ultra puissante, bien plus puissante que celle des Trisolariens. »«
Comment est-ce possible ?»«
Et pourquoi pas ?»« Et encore, je ne vous parle pas des armes, rien que de la vitesse. »« La flotte spatiale humaine peut aujourd'hui atteindre 15% de la vitesse de la lumière. C'est bien plus rapide que les Trisolariens. »
Luoji leva des yeux sceptiques vers l'infirmière et réalisa qu'elle était très belle, comme en réalité tous les gens de cette époque. Elle acquiesça de la tête et sourit.
« Oui, c'est vrai. »«
Et puis, » reprit Xiongwen, « vous savez combien il y a de vaisseaux de ce genre ?»«
Je vais vous le dire. 2000. 2 fois la flotte trisolarienne. Et le nombre continue d'augmenter. »
Luoji regarda à nouveau l'infirmière qui hocha encore une fois la tête.
« Et vous savez dans quel état pitoyable est maintenant la flotte trisolarienne ? Ces 2 siècles, ils ont encore traversé 3 champs de neige, 3 nuages de poussière interstellaire. J'ai entendu quelqu'un dire que la dernière fois, c'était il y a 4 ans. Les images du télescope ont montré que leur flotte était éparpillée. C'est la débandade ! Une bonne moitié de leurs vaisseaux ont arrêté d'accélérer et ralentissent chaque fois qu'ils passent dans les champs de neige. Ils rampent en quelque sorte.
Ceux-là n'atteindront pas le système solaire avant 8 siècles. Et encore, ce ne seront peut-être plus que des épaves.
En se basant sur la vitesse actuelle de la flotte, on prédit qu'à peine 300 vaisseaux arriveront à la date prévue, dans 2 siècles. En revanche, une de leurs sondes va bientôt atteindre le système solaire. Les 9 autres sont en retrait. Elles n'arriveront que dans 3 ans.
« Les sondes ? Qu'est-ce que c'est ?» demanda Luoji sans comprendre. L'infirmière intervint. « Nous vous recommandons de ne pas échanger d'un seul coup autant d'informations. Quand les hibernautes qui viennent de se réveiller apprennent toutes ces choses, ils n'arrivent pas à se tenir tranquilles pendant des jours. Cela ne favorise pas la convalescence. »«
Et alors, on est content ou est le problème ?»
s'exclama Xiongwen en haussant les épaules. Puis il se rallongea et soupira à destination du plafond qui émettait une lumière douce.
« Ils sont doués, nos enfants, ils sont doués !»«
De quels enfants parlez-vous ? » le reprit l'infirmière, courroucée. « Je vous rappelle que la période d'hibernation ne compte pas dans votre âge, c'est vous qui êtes un enfant. »
Mais aux yeux de Luoji, cette fille paraissait effectivement plus jeune que Xiongwen. Il savait néanmoins qu'il n'était peut-être pas pertinent à cette époque de juger l'âge d'une personne à partir de son apparence physique. L'infirmière s'adressa à Luoji.
Les gens de votre temps sont assez désespérés, mais les choses ne sont vraiment pas si graves que ça. » Aux oreilles de Luoji, c'était la voix d'un ange. Il était comme un enfant qui venait de se réveiller d'un cauchemar. Tous les moments d'angoisse qu'il avait vécu étaient chassés par un sourire. Quand l'ange eut parlé, le disque d'un soleil levant passa à toute vitesse sur sa blouse. Sous ses rayons d'or, une terre jaune et desséchée verdit à vue d'œil et des fleurs s'ouvrirent passionnément. Une fois l'infirmière partie, Luoji demanda à Xiangwen « Et le programme colmateur ?» Xiangwen secoua la tête dubitatif. « Colmateur ? Jamais entendu parler. » Luoji lui demanda la date à laquelle il était entré en hibernation. C'était avant le lancement du programme. À l'époque, l'hibernation était hors de prix, il devait venir d'une très bonne famille. Mais s'il n'avait pas entendu parler du programme colmateur pendant ces 5 derniers jours, cela signifiait que si l'époque ne les avait peut-être pas oubliés, il n'avait en tout cas plus beaucoup d'importance. Puis, grâce à 2 détails en apparence insignifiants, Luoji put juger du niveau de technologie de cette nouvelle ère. Peu de temps après son entrée dans la chambre, l'infirmière lui apporta son premier repas depuis son réveil. Du pain, de la confiture, un verre de lait. En très petite quantité. L'infirmière lui expliqua que ses fonctions digestives n'étaient pas encore tout à fait rétablies. Luoji mordit une bouchée de pain et eut l'impression de manger de la sûre. « Votre sens du goût reviendra bientôt », expliqua l'infirmière.
« Et quand il sera revenu, vous trouverez ça encore plus dégueulasse »,
ajouta Xiangwen. L'infirmière sourit. « Naturellement, ce ne sont pas les mêmes saveurs qu'à votre époque, quand ça poussait à la surface. » « Mais alors d'où est-ce que ça vient ?» demanda Luoji, la bouche pleine. « Eh bien, des usines agroalimentaires ? Vous êtes capable de synthétiser les céréales ?» Xiangwen répondit à la place de l'infirmière.
« Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent presque plus rien faire pousser. »
Luoji se sentait désolé pour Xiangwen. Il était visiblement de ceux qui, de son temps, avaient été immunisés contre la technologie et restaient insensibles aux miracles technologiques. Il ne serait jamais en mesure d'apprécier pleinement cette époque. Sa deuxième découverte fut un vrai choc pour Luoji, bien que la nature de la chose elle-même fût somme toute relativement banale. En lui tendant son lait, l'infirmière indiqua à Luoji que le verre était chauffant, car désormais plus personne ne buvait rien de chaud, pas même le café. S'il n'avait pas l'habitude du lait froid, il n'aurait qu'à déplacer le slider placé sous le verre pour le régler à la température voulue. Après avoir avalé son lait, Luoji examina attentivement le verre qui avait l'air tout à fait ordinaire, si ce n'est son fond, épais et opaque, qui devait probablement contenir la source de chaleur. Mais en examinant mieux, il ne trouva rien d'autre que le slider. Même en tentant de racler un peu le fond avec son doigt, il s'aperçut qu'il était intégré au reste du verre.
« Ne jouez pas avec ces objets, vous ne comprenez pas encore leur fonctionnement, c'est dangereux !»
le sermonna l'infirmière.
« Je souhaiterais simplement savoir comment il se recharge. »«
Comment il se recharge ?» répéta avec difficulté l'infirmière, qui entendait de toute évidence ce mot pour la première fois.
« Charge ! Recharge !»
tenta Luoji en anglais. Mais l'infirmière secoua encore la tête, désorientée.
« Alors, comment fonctionne la batterie à l'intérieur ?»«
La batterie ?»«
Battery ! Vous n'avez plus de batterie aujourd'hui ?»
En voyant l'infirmière secouer une nouvelle fois la tête, il ajouta.
« Mais alors d'où vient l'électricité du verre ?»«
L'électricité ? Mais il y a de l'électricité partout !» répondit l'infirmière sur un ton très naturel.
« Le dispositif ne tombera jamais à court d'énergie ?»«
Jamais ?» dit l'infirmière en hochant la tête.
« C'est inépuisable !»«
Inépuisable ?
Comment pourrait-on épuiser l'électricité ?»
Quand l'infirmière partit, Luoji n'avait pas encore reposé le verre. Il ne fit pas attention aux moqueries de Xiangwen. Son cœur battait à tout rompre. Il savait qu'il tenait entre les mains un objet dont les hommes rêvaient depuis la nuit des temps. Un moteur perpétuel. Si l'humanité disposait réellement d'une énergie inépuisable, elle était capable de tout. Luoji croyait à présent aux paroles de l'infirmière. Les choses n'étaient vraiment pas si graves que ça.
Lorsque le médecin arriva dans la chambre pour l'ausculter, Luoji l'interrogea au sujet du programme collimateur.
« J'en ai entendu parler, c'est une blague de l'ancien temps, » répondit-il sans réfléchir.
« Qu'est-il arrivé au collimateur ?»«
Je crois que l'un d'eux s'est suicidé, un autre a été lapidé. C'est arrivé au tout début du programme, ça va faire 2 siècles. »«
Et les deux autres ?»«
Je ne sais pas, encore en hibernation probablement. »
« L'un d'entre eux était chinois, ça vous dit quelque chose ?» demanda prudemment Luoji tout en fixant nerveusement le médecin.
« Vous voulez parler de celui qui a envoyé une malédiction à une étoile, c'est ça ?
Oui, je crois qu'ils en parlent dans les cours d'histoire prémoderne, » l'interrompit l'infirmière.
« Oui, c'est ça. Et maintenant, il... »
commença Luoji.
« Je n'en sais rien, sans doute est-il encore en hibernation. Ça ne m'intéresse pas vraiment, pour tout vous dire, » ajouta le médecin, l'esprit ailleurs.
« Et cette étoile, je veux parler de ce système planétaire où il a envoyé sa malédiction ?»
demanda Luoji, le cœur serré par l'angoisse.
« Qu'est-ce qui peut bien lui être arrivé ? Elle est certainement toujours là. Une malédiction, quelle blague !»«
Alors, rien n'est arrivé à cette étoile ? Vraiment rien ?»«
Pas que je sache en tout cas, et toi ?»
demanda le médecin à l'infirmière.
« Je ne sais pas non plus, » dit-elle en secouant la tête.
À l'époque, le monde a cédé à la panique et il a imaginé toute une suite d'idées ridicules.
Et après ? Soupira Luoji.
Après, ça a été le grand ravin, répondit le médecin.
Le grand ravin ? Qu'est-ce que c'est ?
Vous saurez tout bien assez tôt. En attendant, reposez-vous, glissa le médecin dans un soupir. Mais il vaut mieux que vous en sachiez le moins possible à ce sujet.
Tandis qu'il se retournait pour sortir de la chambre, des nuages noirs se déployèrent sur sa blouse. Celle de l'infirmière afficha des paires de grands yeux, certains terrifiés et d'autres en larmes. Quand tous deux eurent quitté la pièce, Luoji resta assis un long moment sur le lit sans bouger, en se murmurant à lui-même. « une blague de l'ancien temps. » Puis il commença à rire, tout d'abord en silence et bientôt à gorge déployée, faisant trembler le lit. Xiangguan, paniqué, voulut appeler le médecin.
« Ce n'est rien. Dormez !» lui dit Luoji.
Puis il réussit à s'allonger seul et s'endormit rapidement. Son premier sommeil depuis qu'il s'était réveillé d'hibernation. Il rêva de Chuangyan et de sa fille. Comme les dernières fois, Chuangyan marchait sous la neige, son enfant endormi contre son épaule. Quand il se réveilla, l'infirmière entra. Elle lui dit bonjour à voix basse, de peur de réveiller Xiangguan qui dormait encore à point fermé.
« Est-ce le matin ?
Pourquoi n'y a-t-il aucune fenêtre dans cette chambre ?» demanda Luoji en regardant autour de lui.
« Normalement, n'importe quelle partie du mur peut devenir transparente, mais le médecin estime que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à voir l'extérieur. Tout est encore nouveau pour vous, cela risque de vous perturber et d'affecter votre repos. »
Je suis réveillé depuis déjà un moment et je ne sais toujours pas à quoi ressemble le monde. Ça aussi, ça affecte mon repos. »
Puis il pointa Xiangguan.
« Je ne suis pas comme lui. »
« Ça ne fait rien, » sourit l'infirmière. « J'ai bientôt terminé mon service. Que diriez-vous que je vous emmène faire un petit tour dehors ? Vous prendrez votre petit déjeuner à votre retour. » Euphorique, Luoji suivit l'infirmière jusque dans sa salle de veille. Il scruta la pièce. Il arrivait à deviner l'utilité d'une bonne partie des objets qui s'y trouvaient, mais il ignorait absolument la fonction des autres. Il n'y avait aucun ordinateur ni aucun autre équipement informatique, ce qui était prévisible car chaque coin de mur pouvait activer un écran. 3 parapluies, posés à côté de la porte, attirèrent son attention. Ils n'étaient pas du même modèle, mais, à en juger par leur apparence, ce ne pouvait être que des parapluies. Ce qui surprit Luoji, c'était leur volume, massif. Comment pouvait-il ne pas y avoir de parapluies pliables à cette époque ? L'infirmière sortit du vestiaire, vêtue de ses propres habits. Outre les images animées projetées sur leur surface luisante, les changements de style vestimentaire étaient au moins du domaine de ce que Luoji aurait pu imaginer. Par comparaison avec ceux de son époque, ses habits apparaissaient toutefois asymétriques.
Néanmoins, il était heureux de savoir que même après 185 ans, il pouvait encore trouver de la beauté dans les vêtements d'une femme. L'infirmière saisit un des trois parapluies qui paraissait assez lourd, car elle put uniquement le soulever sur son épaule.
« Est-ce qu'il pleut dehors ?»
L'infirmière secoua la tête.
« Vous croyez que c'est un parapluie, c'est ça ?»
dit-elle en écorchant un peu le mot « parapluie » qui ne lui était manifestement pas naturel.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda Luoji en désignant l'appareil sur son épaule. Il s'attendait à ce qu'elle formule un néologisme étrange, mais il n'en fut rien.
« Mon vélo ?»
s'exclama-t-elle. Arrivé dans le couloir, Luoji demanda
« Votre maison est loin d'ici ?»«
Si vous voulez parler de l'endroit où je vis, non, ce n'est pas très loin. Une dizaine de minutes à vélo, » dit-elle, toujours debout et en fixant Luoji de son regard enchanteur. Puis elle ajouta quelque chose qui le surprit. « Aujourd'hui, nous n'avons plus de maison. Plus personne n'en a. Le mariage, la famille, tout ça n'existe plus depuis le grand ravin. C'est la première chose à laquelle vous allez devoir vous habituer. »
« Cette première chose, je crains de ne jamais pouvoir m'y adapter. »«
Oh, mais si. J'ai lu dans les livres d'histoire que les institutions du mariage et de la famille commençaient déjà à se déliter à votre époque. Beaucoup de gens n'acceptaient déjà plus d'être sous la contrainte et voulaient mener une vie libre, » affirma-t-elle.
C'était la deuxième fois qu'elle évoquait ses cours d'histoire.
« Oui, j'étais comme ça moi aussi, mais après, » pensa Luoji.
Depuis l'instant où il s'était réveillé, Chuangyan et sa fille n'avaient pas quitté ses pensées une seule seconde. Elles étaient déjà devenues le fond d'écran de sa conscience, elles s'y affichaient immuablement. Mais ici, personne ne l'avait reconnue, et sa situation étant encore incertaine, il n'osa pas se renseigner trop hâtivement sur leur sort, bien qu'il fût rongé d'inquiétude. Ils firent quelques pas dans le couloir, puis passèrent une porte automatique. Les yeux de Luoji s'illuminèrent. Devant eux s'étendait une plateforme longue et étroite. Son visage fut accueilli par une brise fraîche. Il prit conscience qu'il était à l'extérieur.
« Que le ciel est bleu !»
fut le premier cri qu'il poussa à la vue de ce nouveau monde.
« Vraiment ? Pas autant qu'à votre époque, en tout cas !»
Il était pourtant indubitablement plus bleu, beaucoup plus bleu. Mais Luoji n'en rajouta pas. Il s'abandonna simplement à ce bleu infini, laissant son esprit s'y fondre. Un doute lui traversa l'esprit. Était-ce le paradis? Dans ses souvenirs, ce n'était que lors de ses 5 années passées dans son jardin d'Éden, coupé du reste du monde, qu'il avait eu l'occasion de contempler un ciel aussi pur. Seulement, il n'y avait presque aucun nuage blanc dans le ciel d'ici. 2 seules petites volutes pâles à l'ouest, comme si un peintre céleste avait involontairement fait une bavure. Le soleil qui venait juste de se lever à l'est scintillait comme du cristal dans l'atmosphère pure et transparente, comme s'il était bordé de rosée. Luoji baissa les yeux et fut aussitôt pris de vertige. De cette hauteur, il lui fallut un moment pour prendre conscience de ce qu'il voyait sous ses pieds. Une ville. Au premier regard, il avait cru voir une gigantesque forêt dont les troncs fins perçaient la voûte céleste et d'où poussaient des branches perpendiculaires aux longueurs variables. Des bâtiments étaient suspendus au bout de ces branches, comme des feuilles. L'agencement architectural de la ville avait l'air aléatoire. Certaines branches étaient densément fournies et d'autres presque nues. Luoji remarqua vite que le centre de réveil où il se tenait n'était qu'une partie d'un de ces immenses arbres. Il séjournait dans une de ses feuilles, d'où s'étendait cette longue et étroite plateforme. En se retournant, il constata qu'il n'arrivait pas à voir jusqu'où s'élevait le tronc de l'arbre où il était maintenant perché. Il se trouvait peut-être sur une branche au milieu de l'arbre. Plus bas et plus haut, il pouvait voir d'autres branches sur lesquelles étaient suspendues d'autres feuilles architecturales. Il apprendrait plus tard que les adresses de la ville étaient réellement retranscrites ainsi. Arbre XX, branche XX, feuille XX. En observant plus en détail, il s'aperçut que les branches formaient un réseau complexe de passerelles dont l'une des extrémités flottait dans les airs.
« Où sommes-nous ? » demanda Luoji.
« À Pékin. » Il regarda l'infirmière. Elle était encore plus belle et plus touchante sous les rayons de l'aube. Il contempla à nouveau cet endroit qu'elle avait appelé Pékin.
« Où est le centre-ville ?»«
Dans cette direction, nous nous trouvons à l'extérieur du 4e périphérique ouest. D'ici, on peut voir presque toute la ville. »
Luoji scruta un long moment la direction pointée par l'infirmière.
« Impossible, pourquoi n'ont-ils rien conservé ?»«
Que vouliez-vous conserver ? Il n'y avait rien ici à votre époque. »
« Comment ça, rien ? Et la cité interdite ? Et le parc Jinshan ? Et la place Tiananmen ? Et le China World Trade Center ? Ça ne fait qu'un peu plus d'un siècle, tout n'a pas été rasé tout de même. »
« Mais tous ces endroits existent encore ?
Où ça ?
À la surface, bien sûr. »
En voyant le visage de Luoji se décomposer, l'infirmière éclata soudain de rire avec tant de force qu'elle dut se tenir à la rambarde de la plateforme.
« Ha ha ! J'ai oublié, je suis vraiment désolée, j'oublie chaque fois.
Regardez, nous sommes ici sous terre, à plus de 1000 mètres sous la surface. Si jamais je pouvais faire un voyage dans le temps et retourner à votre époque, vous pourriez vous venger et oublier de me rappeler que toutes les villes sont à la surface. Je crois que je serais aussi surprise que vous.
« Mais, et ça ?»
balbutia Luoji en brandissant les deux mains vers le ciel.
« Le ciel est artificiel. Le soleil aussi, » expliqua la jeune femme en s'efforçant de contenir ses rires.
« Oh, bien sûr, ce n'est pas tout à fait exact de dire que tout est artificiel. » C'est simplement une image du ciel prise à une altitude de 10 000 mètres au-dessus de la surface que nous projetons ici. Donc d'un côté, on peut dire que c'est vrai.
Pourquoi avoir construit des villes souterraines? Et pourquoi à 1000 mètres si profondément?
À cause de la guerre, naturellement.
Réfléchissez. La surface ne deviendra-t-elle pas un océan de flammes lors de l'ultime bataille? En tout cas, c'était ce qu'on pensait avant. Depuis la fin du Grand Ravin, toutes les cités du monde ont commencé à se développer sous terre.
Alors toutes les grandes villes sont aujourd'hui souterraines?
La plupart, en tout cas.
Luoji considéra une nouvelle fois ce monde. Il comprenait à présent que les troncs servaient à la fois de piliers soutenant le ciel et en même temps de fondation pour ces villes aux architectures suspendues.
Vous ne souffrirez pas de claustrophobie. Regardez comme le ciel est vaste!
À la surface, il n'est pas aussi beau.
Luoji leva à nouveau les yeux vers le ciel bleu, ou plutôt vers sa projection. Il distinguait cette fois quelques petits objets au milieu du ciel, épars au début, puis quand sa vue se fut accoutumée, il remarqua qu'ils étaient très nombreux et qu'ils emplissaient presque toute la voûte céleste. Étrangement, ces objets lui rappelèrent un endroit sans aucun lien, la vitrine d'une bijouterie. C'était avant de devenir colmateur, quand il était tombé amoureux de la Chuangyan née de son imagination. Un jour, il avait été pris d'une obsession, celle d'acheter un cadeau pour son ange imaginaire. Il s'était rendu dans cette bijouterie et avait observé un grand nombre de pendentifs en or blanc. Ces bijoux gracieux et sophistiqués, déposés sur un tapis de velours noir, scintillaient d'une lueur argentée sous de petits projecteurs. Il éprouvait la même impression visuelle devant le ciel qu'il regardait à présent, à ceci près que le velours était bleu.
« Est-ce la flotte spatiale ?» demanda-t-il avec enthousiasme.
« Non, la flotte n'est pas visible d'ici. Les vaisseaux sont tous au-delà de la ceinture d'astéroïdes.
Ces choses-là, il y a de tout.
Celles dont on peut reconnaître la forme, ce sont des cités spatiales. Les simples points, ce sont des navettes civiles, mais il arrive que des vaisseaux militaires reviennent parfois en orbite. Leurs moteurs sont très lumineux, on ne peut même pas les regarder fixement.
Bien, je vais y aller. Rentrez, il y a du vent ici. »
Luoji se retourna pour lui dire au revoir, mais il fut si surpris qu'il en resta sans voix. La jeune femme avait attrapé son parapluie, son vélo, et l'avait enfilé comme un sac à dos. Puis celui-ci s'était détendu et ouvert au sommet de sa tête pour former deux hélices coaxiales qui se mirent à tourbillonner sans bruit dans deux directions différentes, de manière à équilibrer le couple de rotation. La jeune femme s'éleva lentement dans les airs, franchit la rambarde et fondit dans les abysses qui donnaient le vertige à Luoji.
Suspendue en plein air, elle lui lança à haute voix. « Vous voyez, notre époque n'est pas si mal. Faites comme si votre passé n'avait été qu'un rêve. À demain !»
Elle s'envola avec grâce, ses petites hélices faisant chatoyer les rayons du soleil jusqu'à ce qu'elle ne devienne plus qu'une libellule entre deux arbres géants. Toute une nuée de libellules de même sorte était en train de voleter entre les arbres de la ville. Mais ce qui attirait le plus son attention, c'était le défilé de voitures volantes, comme des bancs de poissons naviguant entre des algues marines. Le soleil illumina la ville et les arbres furent découpés en colonnes de lumière, ornant le flux des véhicules volants d'une pellicule dorée. Devant ce nouveau meilleur des mondes, les yeux de Luoji se gorgèrent de larmes, une sensation de renaissance s'infiltra dans chacune de ses cellules. Le passé n'avait réellement été qu'un rêve. Quand Luoji vit cet homme occidental dans la salle de réception, il sentit qu'il avait quelque chose de différent des autres. Il ne réalisa qu'ensuite que c'était probablement parce que son costume ne scintillait pas et ne projetait aucune image, comme ceux d'une époque aujourd'hui révolue. Peut-être se voulait-ce une marque de solennité. Après avoir serré la main de Luoji, son visiteur se présenta. Ben Jonathan, délégué spécial du comité conjoint de la flotte solaire. C'est sur ordre du comité que vous avez été réveillé de votre hibernation. Vous allez maintenant assister à la dernière audience du programme collimateur. Oh, j'y pense. Arrivez-vous à me comprendre ? La langue anglaise a beaucoup changé depuis votre époque. En l'entendant parler, le regret éprouvé plutôt par Luoji de voir la langue chinoise unilatéralement envahie de concepts occidentaux s'évanouit aussitôt, car l'anglais de Jonathan était lui aussi entremêlé de termes en chinois, tels que par exemple « programme collimateur » prononcé dans sa langue. Ainsi donc, l'anglais, la langue la plus répandue de par le monde, et le chinois mandarin, la langue parlée par le plus grand nombre de locuteurs, s'était interpénétré et fondu en un langage commun. Luoji apprendrait plus tard que toutes les autres langues du monde connaissaient elles aussi ce même phénomène de fusion. Luoji avait donc pu comprendre ce que venait de dire Jonathan. « Le passé n'est pas un rêve. Le passé revient frapper à ta porte », pensa-t-il. Mais l'ayant entendu prononcer l'expression « dernière séance », il se rassura en se disant que tout serait peut-être bientôt terminé. Jonathan se retourna, comme s'il voulait s'assurer que la porte était bien fermée. Puis il marcha jusqu'au mur et activa une interface. Il tapota simplement quelques fois sur la surface, et les quatre cloisons ainsi que le plafond disparurent, laissant place à un écran holographique. Luoji se tenait au milieu d'un auditorium. Beaucoup de choses avaient changé, notamment les murs et la table circulaire qui brillaient d'une lumière tamisée, mais les architectes du lieu s'étaient efforcés de reproduire le style ancien de la salle. Toute la salle, depuis la grande table en passant par l'estrade, transpirait une nostalgie qui lui permit de reconnaître immédiatement où il se trouvait. Mais l'auditorium était encore vide. Seuls deux employés déposaient des documents autour de la table. Luoji fut surpris de voir qu'ils utilisaient encore du papier. Comme pour le costume de Jonathan, peut-être était-ce là aussi une marque de solennité. Les visioconférences sont maintenant devenues la norme. Nous pouvons participer à une réunion grâce à cette technologie sans que cela n'affecte son importance et son sérieux. Il reste encore un peu de temps avant que l'audience ne débute. Je crois que vous n'êtes pas encore très au fait de la situation mondiale actuelle. Avez-vous besoin que je vous en fasse une présentation basique ? Luoji hocha la tête. « Bien sûr, je vous remercie. » Jonathan pointa l'auditorium. « Je ne pourrais vous faire qu'un bref résumé de la situation globale. Tout d'abord, celle des nations. L'Europe est devenue un seul et même pays qu'on appelle la Fédération européenne. Elle englobe les anciens pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest, mais pas la partie européenne de la Russie. La Russie et la Biélorussie ont fusionné en une seule entité, l'Alliance russe. Les régions anglophones et francophones du Canada se sont scindées en deux nations distinctes. Il y a encore eu quelques changements mineurs dans d'autres régions du monde, mais ceux-ci sont les principaux. Luoji était très surpris. « C'est tout ?
Cela fait bientôt 2 siècles. J'imaginais que le monde serait méconnaissable. »
Tournant le dos à l'auditorium, Jonathan hocha gravement la tête.
« Il est méconnaissable, Dr. Luoji, réellement méconnaissable. »
« Mais non. Déjà à notre époque, il existait des signes avant-coureurs des changements que vous avez évoqués. »
« Mais il y a une chose que vous n'aviez pas anticipée. Il n'y a plus aucune grande puissance. Sur la scène géopolitique internationale, toutes les nations sont en déclin. »«
Toutes les nations ? Mais au profit de qui ?»«
Une entité supranationale, la flotte spatiale. »
Luoji dut réfléchir pendant un certain temps avant de saisir le sens de ce que venait de dire Jonathan.
« Vous voulez dire que la flotte spatiale a pris son indépendance ?»«
Oui. Les armées spatiales n'appartiennent plus à aucun pays. Ce sont maintenant des entités autonomes, tant politiquement qu'économiquement, et elles sont membres des Nations Unies au même titre que les autres nations. Aujourd'hui, il existe 3 grandes flottes dans le système solaire, la flotte asiatique, la flotte européenne et la flotte nord-américaine. Elles tirent leur nom de leur lieu géographique d'origine, mais elles n'y sont plus subordonnées. Elles sont entièrement indépendantes. Chacune des 3 flottes spatiales possède un pouvoir politique et économique équivalent à celui des superpuissances nationales de votre époque.
« Mon Dieu !» s'exclama Luoji.
« Mais ne vous méprenez pas, la Terre n'est pas sous le régime d'un gouvernement militariste. Les territoires et les zones de souveraineté des flottes sont dans l'espace. Elles ne s'ingèrent que rarement dans les affaires internationales terrestres, conformément à ce qui est stipulé dans la Charte des Nations Unies. Par conséquent, le monde humain se divise maintenant en 2 sphères distinctes, la sphère traditionnelle des nations et celle nouvelle des flottes spatiales. Les 3 flottes se sont structurées en une union appelée « flotte solaire ». L'ancien Conseil de défense planétaire est ainsi devenu le comité conjoint de la flotte solaire. C'est actuellement l'organe exécutif le plus élevé de la flotte solaire. Mais sa situation est similaire à celle de l'ONU. Il a principalement une fonction de coordination et n'exerce aucun pouvoir concret. En réalité, la flotte solaire n'en a que le nom, car le pouvoir des différentes forces spatiales humaines est contrôlé par le commandement suprême respectif des 3 grandes flottes. Bien, vous en savez suffisamment pour prendre part à la réunion d'aujourd'hui. Celle-ci est présidée par le comité conjoint de la flotte solaire, qui a hérité de la gestion du programme collimateur.
À cet instant, une fenêtre s'ouvrit sur l'écran holographique et l'image de Bill Hines et Keiko Yamasugi apparut à l'intérieur. Il n'avait pas l'air d'avoir changé. Hines salua Luoji en souriant. Mais Keiko Yamasugi, assise à côté, ne répondit à la salutation de Luoji que par un hochement de tête inexpressif.
« Moi aussi, on vient tout juste de me réveiller, » expliqua Hines. « Docteur Luoji, j'ai eu le regret d'apprendre que cette planète que vous aviez maudite, à 50 années-lumière de chez nous, tourne encore en orbite autour de son étoile.
« Ha ha, c'était une blague de l'ancien temps. »
fit Luoji en agitant la main pour se moquer de lui-même.
« Mais vous avez eu de la chance par rapport à Taylor et à Ray Diaz.
On dirait bien que vous êtes le seul colmateur à avoir réussi. Votre plan a peut-être réellement permis d'élever l'intelligence de l'humanité. »
Hines arbora le même sourire d'autodérision que Luoji et secoua la tête.
« Non, pas du tout. On m'a informé qu'après notre entrée en hibernation, les recherches sur la pensée humaine se sont très vite heurtées à un obstacle insurmontable. Aller plus loin aurait nécessité d'étudier les mécanismes de la pensée à un niveau quantique. Or, comme pour bien d'autres disciplines scientifiques, nous faisons face aux remparts infranchissables dressés devant nous par les intellectrons. Nous n'avons pas élevé l'intelligence humaine. Si nous devons vraiment dire que nous avons accompli quelque chose, c'est peut-être d'avoir renforcé la foi d'une certaine partie de la population. »
Au moment où Luoji était entré en hibernation, le poinçonnage mental n'avait pas encore été développé et c'est pourquoi il ne comprit pas vraiment ce que Hines avait voulu dire. Mais il remarqua que lorsqu'il avait prononcé cette dernière phrase, un sourire mystérieux avait traversé le visage glacial de Keiko Yamasugi. La fenêtre disparut et Luoji découvrit que la salle s'était remplie. La majorité des participants portaient des uniformes militaires qui différaient peu de ceux de son époque. Leurs uniformes ne projetaient aucune image, mais leurs insignes et leurs épaulettes étaient scintillants. La présidence du comité conjoint était encore tournante et occupée par un officier civil. En voyant le président, Luoji songea à Garanin. Il prit alors conscience qu'il était un homme du passé, vieux de 2 siècles, et qu'en comparaison de nombre de ses contemporains qui avaient été emportés par le fleuve du temps, il restait, quoi qu'il arrive, un homme chanceux. Le président ouvrit la réunion.
« Mesdames et messieurs les représentants, au cours de cette séance, nous allons soumettre au vote la motion 649 proposée par la flotte nord-américaine et la flotte européenne lors de la 47e réunion du comité conjoint. Je vais à présent lire le contenu de cette proposition. Durant l'an 2 de la Grande Crise, le Conseil de défense planétaire a soumis l'idée du programme Collmateur. Celui-ci a été unanimement adopté par les membres permanents des Nations Unies et le programme a pu être lancé dès l'année suivante. Le cœur du programme Collmateur était de permettre à 4 individus désignés après un vote des membres des Nations permanentes de pouvoir concevoir et mettre à exécution une stratégie cachée et uniquement connue d'eux-mêmes destinée à résister à l'invasion trisolarienne en contournant la surveillance omniprésente des intellectrons. Les Nations Unies ont établi une législation spécifique permettant de protéger les droits de formulation et de mise en œuvre des plans des collmateurs. À ce jour, le programme collmateur dure depuis 205 ans. Entre-temps, il a connu une interruption d'un peu plus d'un siècle. Dans cet intervalle, le pilotage du projet, autrefois sous la responsabilité du CDP, a été transféré au comité conjoint de la flotte solaire. Le programme Collmateur est né dans un contexte historique bien précis. La crise trisolarienne venait tout juste de commencer et face à cette épreuve dévastatrice inédite dans l'histoire humaine, la communauté internationale a sombré dans une peur et un désespoir sans précédent. C'est dans un tel climat qu'a éclos le programme Collmateur. Il résultait moins d'un choix rationnel que d'une lutte désespérée. L'histoire a montré que la stratégie mise en place par le programme Collmateur a été un échec total. Il n'est pas exagéré de dire que c'est probablement le projet le plus naïf et le plus stupide que la société humaine ait jamais collectivement engagé dans son histoire. Les Collmateurs se sont vus investis de droits inouïs sans faire l'objet en contrepartie d'une supervision légale. La liberté leur a même été offerte d'abuser la communauté internationale. Ce projet constitue une trahison des valeurs morales et des normes juridiques les plus élémentaires des sociétés humaines. Durant le processus d'exécution du programme Collmateur, une partie énorme des ressources consacrées aux stratégies militaires a été dilapidée sans raison. Il a été démontré que le plan « Essaim de moustique » de Frederick Taylor ne présentait absolument aucun intérêt stratégique. Tandis que celui de Manuel Rey Diaz, qui consistait à créer une réaction en chaîne à partir de la collision de Mercure avec le Soleil, était irréalisable, même avec les moyens technologiques aujourd'hui à notre disposition. Plus grave encore, ces 2 plans étaient criminels. Taylor avait l'intention d'attaquer et de détruire les flottes spatiales humaines, tandis que celui de Rey Diaz était encore plus pernicieux. Il était prêt à prendre toute vie terrestre en otage. Quant aux 2 autres collmateurs, leurs projets se sont révélés extrêmement décevants. La véritable stratégie du plan d'élévation de la pensée du collmateur Bill Hines n'a certes pas encore été révélée, mais il s'est rendu coupable d'avoir utilisé la première phase d'application du poinçonnage mental sur des membres des flottes spatiales. Ce procédé représente une grave atteinte à la liberté de pensée, qui est le fondement même de la survie et du progrès de la civilisation humaine. En ce qui concerne enfin le collmateur Luoji, il a d'abord fait preuve d'irresponsabilité en dilapidant des fonds publics pour mener une vie hédonique, puis il s'est lancé dans un charlatanisme mystique proprement ridicule. Par conséquent, nous considérons qu'en raison de la progression décisive des armées humaines et de leur position de force dans la bataille contre les trisolariens, Le programme collimateur n'a plus aucun sens. Le temps est venu de mettre un terme à ce problème légué par l'histoire. Nous proposons donc au comité conjoint de clore immédiatement le programme collimateur et d'abroger la charte des Nations Unies le concernant. Fin de la proposition.
Le président reposa lentement le document, puis balaya l'auditorium du regard.
Nous pouvons maintenant procéder au vote.
Tous les représentants, sans exception, levèrent la main. La procédure de vote de cette époque était toujours aussi primitive. Des employés passèrent au milieu de la salle en vérifiant avec gravité le nombre de votants. Puis ils rapportèrent le résultat final au président qui déclara
« La motion 649 a été votée à l'unanimité. Elle prend effet dès aujourd'hui. »
Le président releva la tête. Luoji ignorait s'il le regardait, lui ou Bill Hines. De même que 185 ans plus tôt, lors de sa première audience, Luoji ne savait pas dans quel coin de la salle se trouvaient les écrans d'affichage.
Le programme collimateur est désormais clos. La législation des Nations Unies portant sur les collimateurs n'est plus en vigueur. Au nom du comité conjoint de la flotte solaire, j'informe les collimateurs Bill Hines et Luoji ici présents qu'ils viennent d'être déchus de leur identité de collimateur, des privilèges spéciaux et de l'immunité accordée selon l'ancienne législation. Vous redevenez à présent des citoyens ordinaires de vos pays respectifs.
Le président déclara que la séance était levée. Ben Jonathan se leva et éteignit l'écran holographique, et avec lui le cauchemar de Luoji qui se poursuivait depuis 2 siècles.
« Docteur Luoji, d'après mes informations, c'est le résultat que vous espériez, » lui dit-il en souriant.
« Oui, c'était ce que je voulais. Merci, monsieur le délégué, et je remercie le comité conjoint de me permettre de retrouver une identité de citoyen ordinaire, » répondit Luoji, dont la sincérité venait du fond du cœur.
L'audience a été brève. Le simple vote d'une motion. On m'a autorisé à discuter avec vous des détails plus concrets. Nous pouvons commencer à parler de ce qui vous tient le plus à cœur.
« Ma femme et ma fille ?» s'empressa-t-il de demander.
Cette question le tourmentait depuis le premier jour de son réveil. Il aurait voulu la poser à Jonathan bien plus tôt, avant même le début de la séance.
« Soyez rassurés, elles vont bien, toutes les deux. Elles sont encore en hibernation. Je vous transmettrai les documents les concernant et vous pourrez solliciter leur réveil à tout moment. »«
Merci, merci !»
Les yeux de Luoji se mouillèrent de larmes. Il avait une nouvelle fois l'impression d'être arrivé au paradis.
« Cependant, docteur Luoji, si je peux vous donner un conseil personnel, » commença Jonathan en s'approchant de Luoji assis sur le canapé.
« Il n'est pas facile pour un hibernaute de s'intégrer dans notre époque, et je vous recommande d'attendre que votre vie ici soit stable avant de les réveiller. Les frais engagés par les Nations Unies sont suffisants pour leur permettre de rester en hibernation encore 230 ans.
« Bien. Et moi, de quoi vais-je vivre à l'extérieur ?»
La question de Luoji fit sourire le délégué.
« Vous n'avez pas à vous en faire. » Votre intégration ne sera peut-être pas facile, mais vous vivrez très confortablement. Les citoyens bénéficient à notre époque d'une excellente protection sociale. Même un individu sans emploi peut mener une vie très décente. Par ailleurs, l'université dans laquelle vous avez autrefois enseigné existe toujours. Elle se trouve dans cette ville. Ils nous ont promis de considérer votre retour et vous contacteront dans quelque temps.
Luoji pensa soudain à quelque chose et réprima un frisson.
« Et en ce qui concerne ma sécurité, quand je serai dehors, l'OTT m'a condamné à mort. »«
L'OTT !»
s'exclama Jonathan en éclatant de rire.
« L'organisation Terre Trisolaris a été anéantie il y a déjà un siècle. Il ne reste plus aucun de ses membres au sein de la société. Bien entendu, certains individus partagent peut-être encore leur idéologie, mais ils ne forment déjà plus une structure organisée. Vous n'avez absolument rien à craindre concernant votre sécurité à l'extérieur. »
Au moment de partir, Jonathan abandonna sa contenance de haut fonctionnaire et son costume s'anima, affichant une image exagérément distordue de la voûte céleste. Il adressa un sourire à Luoji.
« Docteur, de tous les personnages historiques que j'ai rencontrés dans ma carrière,
Vous êtes sans nul doute celui qui a le plus grand sens de l'humour. Une malédiction. Une malédiction et une étoile.
Luoji se retrouva seul dans la salle de réception. Il ruminait en silence la réalité devant ses yeux. Après avoir passé 2 siècles dans la peau du sauveur du monde, il était enfin redevenu un homme ordinaire. Une nouvelle vie s'offrait à lui.
« Vous revoilà un homme ordinaire, vieux frère !»
Une voix bourrue répondit aux pensées de Luoji. Il se retourna et vit Shixiang entrer.
« C'est ce que m'a dit le gaillard qui vient de sortir ?»
Ravis de se revoir, ils échangèrent sur leurs expériences respectives. Luoji apprit que Shixiang avait été réveillé 2 mois plus tôt. Sa leucémie avait été soignée. Les médecins avaient aussi remarqué qu'il présentait un risque élevé de développer une maladie du foie, sans doute en raison de sa consommation d'alcool, et ils s'en étaient occupés au passage. En réalité, tous deux n'avaient pas l'impression que tant de temps s'était écoulé depuis leur séparation. Pas plus de 4 ou 5 ans peut-être, car il n'y avait aucune sensation temporelle en hibernation. Leurs retrouvailles dans cette nouvelle époque, 2 siècles plus tard, renforcèrent leur amitié. « Je suis venu vous chercher. Il n'y a plus aucune raison pour vous de rester ici, » dit Shixiang en sortant des vêtements de son sac à dos et en lui demandant de les enfiler.
« Mais c'est beaucoup trop grand !»
s'étonna Luoji en ouvrant le t-shirt comme si c'était une veste.
« Regardez-vous, vous vous réveillez 2 mois plus tard et vous êtes déjà un plouc à côté de moi. Essayez-le !»
Luoji enfila son t-shirt et entendit un faible sifflement. L'habit se mit à rétrécir lentement pour s'ajuster à sa taille. Shixiang lui montra un bouton au niveau de sa poitrine qui ressemblait à une broche et lui indiqua qu'il pouvait le régler au besoin.
« Mais dites-moi, vous ne porteriez pas les mêmes habits qu'il y a 2 siècles ?» demanda-t-il à Shixiang.
Il avait le souvenir que ce dernier était en effet affublé de la même veste la dernière fois qu'il s'était vu.
« La plupart de mes affaires ont été perdues pendant le grand ravin, mais ces quelques habits-là, ma famille me les a laissés. C'est simplement que je ne peux plus les mettre. Vous aussi, on vous a laissé quelques affaires de l'époque. On ira les chercher ensemble. Je vous le dis, vieux frère, quand vous voyez ces trucs-là, c'est là que vous vous rendez compte que 2 siècles, ce n'est pas rien. »
Et tout en parlant, il pressa un coin de sa veste qui devint entièrement blanche. La texture en cuir d'origine n'était qu'une image.
« Je préfère comme c'était avant. »«
Est-ce que je peux faire la même chose avec les miens et projeter des images comme eux ?»
demanda-t-il en observant ses propres vêtements.
« Ouais, mais il y a des codes à rentrer, je n'y connais rien. Allons-y. »
Luoji et Dashi prirent l'ascenseur du tronc pour descendre jusqu'au rez-de-chaussée. Ils traversèrent le vaste hall de l'arbre et entrèrent dans un nouveau monde.